Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le balado Soccer BBN. Bienvenue Arius, re-bienvenue dans l'univers.
Ça fait un petit bout, mais oui, mais on est toujours là quand même, on est toujours là.
Exactement, puis ça c'est vraiment
mais merci Jeff.
On a préparé un gros show à soir. Gros show à soir parce que là, on annonçait une expansion en CPL. Puis ici, on aime ça parler de soccer, de développement du soccer. Fait que c'est sûr qu'on va s'en parler tout au long de la soirée. Mais je veux qu'on revienne avant parce que j'ai dressé un peu le bilan de la saison du CF Montréal. Mm-hmm. Puis là, j'ai pas eu la chance de t'en parler ben. Mais on a jasé ensemble là, le soir, finalement, que j'étais au Stade Saputo pour l'élimination, on va le dire comme ça, du CF Montréal.
Ouais.
et je pense qu'on était d'accord sur un point, Arius, c'est que ce qui a manqué à cette équipe-là cette saison, surtout en fin de saison, c'est l'expérience. Mmh. C'est ça qui a manqué.
Jeff, premièrement, bonsoir les auditeurs. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Puis effectivement, Jeff, l'expérience a beaucoup manqué. Puis il faut pas qu'on oublie le CF de Montréal est l'équipe, une des équipes la plus jeune, les plus jeunes de la ligue. Donc je pense que c'est la quatrième équipe la plus jeune de la MLS. Exactement. C'est quand même pas rien. Donc, tu sais, puis la moyenne d'âge, c'est 24 ans et demi. Donc, on a vu cette expérience-là faire mal à des fins de match. Si on se souvient à Atlanta, si on se souvient à Nashville, c'est des points
Toronto,
aujourd'hui.
Face à Toronto.
Puis deux mois après, encore contre Nashville. Donc, c'est des points qui nous ont fait mal aujourd'hui. Puis qu'aujourd'hui, on n'en parlerait même pas si ces points-là, on les avait assurés avec des joueurs expérimentés sur le jeu, sur le terrain, quand tu as de l'avance, qui sait quoi faire, qui sait comment gérer un match. Et puis, je pense que... tu l'as bien dit, cette expérience-là, puis je pense qu'on est d'accord là-dessus, a vraiment fait mal à notre CF de Montréal.
Parce que dans beaucoup de commentaires que j'ai lus sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, quelque chose qui revenait souvent, c'est que la profondeur a manqué à cette équipe-là et... Je suis pas nécessairement d'accord avec ça parce que je pense qu'on avait une belle profondeur chez le CF Montréal. Pour moi, le problème qu'on a eu, c'est qu'il y a tellement eu de blessés, il y a tellement eu de joueurs absents, sélections nationales.
C'est
le problème, c'est que notre profondeur, dans les derniers matchs de la saison, c'était plus de la profondeur. Notre profondeur était titulaire dans le match. Alors là... Ce qu'on a manqué, c'est de profondeur de la profondeur. Parce que, tu sais, si on regarde les 4-5 derniers matchs, Nussi Ibrahim utilisé avec Joaquin Torres, ça aurait dû être notre profondeur. Et là, c'était notre titularisation. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut se demander, avec un Kyoto en santé, avec un Mason Toy en santé, est-ce que le CF Montréal est en série? Et je pense que la réponse est oui.
Moi aussi, je crois que la réponse, ça serait oui. Puis parce que le coaching staff, là, il faut leur donner crédit quand même, malgré toutes les
embûches.
Oui, les embûches. Et toutes les situations hors du terrain, sur le terrain, a fait un superbe travail, JF. A fait un superbe travail, a gardé ce groupe-là focus, a compétitionné jusqu'à la fin de la compétition. Donc, selon moi, le coaching staff a fait son travail. Après, il y a eu les circonstances de blessure, il y a eu, on sait, les circonstances avec les ultras. Veux pas, ces choses-là viennent quand même affecter l'environnement de cette équipe. Puis le fait d'être à l'extérieur, à la maison pour tant de temps, avec la pandémie et tout. Donc, plein de facteurs ont venu nuire quand même à cette équipe jeune qui encore là, on revient encore aux mêmes choses, l'expérience. Imaginez-vous, si on a dans le vestiaire des gars expérimentés. Cette équipe n'avait pas de vedette, on s'entend. La vraie vedette pour nous, je pense que Québécois, c'était Samuel Piette. Puis, bon, le joueur, je pense que c'est Wanyama qui est le joueur
le DP.
Qui est considéré le DP, c'est ça? Donc, c'est tous des jeunes qui sont arrivés. On avait un Sunumi à la fin de saison qui nous a donné un bon coup de main. Seulement 19 ans. On a vu un Miaï qui nous fait toute une saison qui a battu le record de 16 passes.
Ça, c'est
ça, c'est excellent. Donc, après, moi, selon moi, je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir tout de suite à comment on va faire pour entourer un Mia. Comment on va faire pour l'entourer? Parce qu'au milieu de terrain, je pense qu'on a besoin d'un peu plus de créativité pour créer plus d'offensives, pour aller chercher des fins de match, qu'on mène de l'avance et pour ne pas perdre ces matchs-là.
On dit
souvent la meilleure défense, c'est l'attaque. Ben oui, on dit souvent la meilleure défense, c'est l'attaque.
Surtout
mais quand tu mènes un 1-0 en fin de match, tu as un ou deux gars qui peuvent rentrer encore, qui peuvent donner cette profondeur-là puis faire la différence. Ben je pense que ça fait mal beaucoup à... Je pense que si on le demande à M. Nancy, je pense qu'il pourrait nous dire que par moment, ça lui a fait mal de regarder sur le banc qu'il n'avait pas la profondeur qu'il avait besoin.
C'est ça, exactement. Et parce que cette profondeur-là, justement, elle était titulaire. Sunusi Ibrahim aurait pu entrer dans un match et te donner ce but-là avec cette énergie-là, mais de lui demander à 19 ans en MLS, sa première saison, arrivée au Canada, de dire tu vas jouer 90 minutes par match, c'était trop lui demander. Puis je pense que c'était la même chose pour Torres. Tu sais, à long terme, ça va être bon parce qu'on les a développés, mais pour cette saison-là, clairement, c'était un petit peu trop.
Mais en même temps, je pense qu'il y a, il y a eu un côté positif dans tout ça parce que, veut pas, un Sunusi Ibrahim, peut-être qu'à 19 ans, on voyait pas qu'il allait jouer peut-être 26 matchs.
C'est ça.
Puis nous marquer quand même 4 buts en 26 matchs, je pense que c'est quand même bien pour un jeune de 19 ans qui arrive dans la Ligue et qui a fait le travail pour un... pour le temps que Mencinto était absent. Donc, on a eu, tu sais, on voit que cette profondeur-là va être profitable pour nous pour l'an prochain. Après ça, mais c'est d'être capable de trouver un milieu de terrain qui va être capable de fournir continuellement à ces attaquants-là qui ont marqué des buts. Puis je pense que ça a été frustrant aussi cette année pour un Kyoto qui a marqué seulement 8 buts, je pense, cette année. 8 ou 9 buts.
Je pense
donc,
que c'est ça. C'était une saison plutôt difficile, en plus des blessures.
Avec les blessures aussi, en plus, justement, ouais.
Fait que ça n'a pas été une saison facile. Arius, je pense que les gens avaient hâte de que tu reviennes.
Oui, hein?
Un gros merci. Salut Hugo qui veut que tu sois permanent avec nous. Fait que c'est bon signe, ça augure bien.
salut les amis, salut.
Ce qui est bon signe aussi pour le CF Montréal et ce qui me réjouit, c'est qu'on avait quand même envoyé plusieurs joueurs en prêt en CPL cette saison. Et malgré les besoins qu'on aurait eus, parce que plusieurs fois dans la saison, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on devrait ramener un Sean Rea, on devrait ramener un Carifa Yao avec l'équipe, mais et on a même parlé à un certain moment donné de ramener Jonathan Sirois. Mais malgré tout ça, Olivier Renard n'a pas pris panique, a dit « ces jeunes-là, il faut les développer, il faut les construire, il faut leur donner des minutes à un bon niveau ». Et on a pris la décision de les maintenir en CPL. Et ça, pour moi, ça démontre qu'on a une certaine structure et une certaine alignement. Fait que ça, dans le bilan de saison, je ne l'avais pas mentionné hier, mais les jeunes qui ont joué en CPL et qu'on a décidé de garder en CPL, je pense que c'est une bonne nouvelle.
Mais moi, je pense que c'est une excellente nouvelle parce que, premièrement, le joueur, il ne va pas être confus. Parce que souvent, quand on va rappeler des jeunes comme ça, on ne les lance pas tout de suite déjà comme ça dans la mêlée. Donc, déjà en CPL, ils ont déjà une certaine régularité dans leur jeu, dans leur développement actuel. Donc, c'est vraiment si on était vraiment comme la situation l'an dernier, c'était vraiment parce que le club était dans le besoin qu'ils sont allés chercher ces jeunes-là. Puis, tant mieux que l'académie a fait en sorte que ces jeunes-là sont prêts pour être capables de sauter au niveau professionnel. Mais on a quand même vu que certains de ces jeunes-là sont quand même retournés dans les CPL, gagner des minutes de jeu pour continuer leur développement. Et qui est tout à fait normal. Puis je pense que M. Renard a fait un excellent boulot là-dessus. Puis, je n'avais pas parlé de M. Renard tout à l'heure, mais lui aussi mérite quand même dans tout ça, parce que c'est lui qui a quand même composé cette équipe pour le staff technique. Et puis, il est allé chercher assez beaucoup de profondeur, je trouve, pour qu'on puisse terminer la saison sur une bonne note quand même. Et puis malheureusement, ben, on le sait, on connaît déjà le portrait de la saison, mais je pense que c'est une équipe qui va être très compétitive l'année prochaine, avec certains ajouts, puis qui va nous permettre d'aller vers l'avant.
Parce que c'est sûr que, bon, il y a des joueurs qui n'ont pas fait le travail. Je pense à Bjorn
Ouais.
Johnson, sur qui on avait
Ouais.
posé
Ouais.
beaucoup d'espoir.
Ouais.
Mais
Ouais.
tu viens de le mentionner, Olivier Renard, je pense, a fait un travail remarquable avec Wilfried Nancy.
Ouais.
Et
Ouais.
il ne pourra pas jamais, selon moi, Olivier Renard, malgré toutes les qualités qu'il peut avoir, pourra pas avoir un score parfait de 100%. À un moment donné, bon, on va se tromper, mais il y a quand même 16 joueurs qui ont quitté la saison dernière. Il y en a 18 qui sont rentrés. Donc, si on regarde tout ça dans l'ensemble, qu'il y en aille un ou deux, qu'on soit pas sûr, c'est normal. La bonne nouvelle, c'est que selon moi, on entame 2022 en partant de moins loin. Je pense que les ajustements qu'Olivier Renard a à faire pour la prochaine saison, le chantier est plus petit que ce qu'il était la saison dernière. Donc ça, c'est signe qu'on a progressé. Et
Définitivement.
tu le disais tantôt, je pense que tu gagnes avec ton attaque, principalement en MLS. Donc, je pense qu'effectivement, il faudra régler le dossier de Bjorn Johnson et trouver cette expérience-là qui ne paniquera pas devant le filet et qui va aller mettre la balle au fond.
Non seulement qu'il va aller mettre la balle au fond, mais qu'il va donner une certaine assurance. Et parce que match après match, on se demande c'est qui va faire la différence pour nous. Et Atlanta ne se pose pas cette question-là.
Non.
Seattle ne se pose pas cette question-là. C'est ça les grandes équipes du FT. On a souvent parlé là. Il faut se dire les vraies choses.
Ben
Donc,
oui.
puis si on veut parler du plus haut niveau, ben, Paris Saint-Germain ne se pose pas cette question-là. Donc, il faut que le CF de Montréal commence à comprendre, puis comme qu'ils ont compris l'année qu'ils ont amené un Drogba, puis on revient souvent, mais puis un Dybala, il nous faut une certaine assurance, puis que la défense adverse sait que ça va être difficile pour nous de cette soirée de faire face au CF de Montréal. Parce
Et
que je pense que les quatre derniers matchs, c'est ça qui nous a fait mal, parce qu'on pouvait pas chercher ce but-là pour aller chercher cette confiance-là au niveau du jeu, au niveau du momentum, au niveau du rythme, au niveau même de la gestion du match.
tu sais,
Donc,
j'en parlais hier à Rius en plus, là, c'est pas nécessairement une question d'aller chercher une grande vedette internationale. C'est pas nécessairement une question d'aller chercher un joueur qui va coûter une fortune. C'est d'aller chercher un joueur qui va être efficace. Que oui,
Efficace.
il va coûter plus cher que
Ouais.
l'ensemble de tes joueurs actuellement,
Ouais.
mais que tu le sais, que lorsqu'il est sur le terrain, il va faire le travail. Que tu ne te
Il va
poses
faire le
pas la
travail.
question à savoir, Bjorn Johnson, à soir, il va-tu utiliser sa tête? Il va-tu être disponible pour être en option? Tu vas savoir
C'est
que le
ça.
joueur, il rentre sur le terrain et il
Ouais.
va faire la différence dans le match. C'est ça qui manque.
OK, à part les blessures, on l'a dit souvent, hein, puis on l'avait mentionné au début de l'année qu'on a eu certaines discussions avec Richard aussi sur nos analyses. On ne savait jamais qui allait être les deux vraiment numéro un attaquants là, du CF de Montréal.
Ça n'a jamais été clair.
Ça n'a jamais été clair. Parce que justement, on savait qu'on avait vraiment un manque de constance, puis un certain manque aussi devant le but qui faisait en sorte qu'on se questionnait toujours c'est qui va nous permettre aujourd'hui de gagner le match. Si Kyoto n'en mettait pas deux ou si ça faisait deux matchs pour un match, ça n'allait pas de son côté, mais ça faisait mal, là. Ça faisait mal.
Je pense que cette saison, du côté du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, on s'est pas demandé
Exact.
souvent si Boo Gill, Buxa allaient avoir des gros matchs. On savait qui allait faire le travail.
Les
Nous,
travail.
On s'est demandé, ce soir, c'est-tu Rommel? Est-ce que c'est Mason ça. Toy? C'est-tu Johnson?
C'est ça.
Est-ce qu'on fait rentrer Balou? Est-ce que Lassie peut aider cette équipe-là? Est-ce que Matko va faire le travail?
Voilà.
on
les a tout essayé. On a tout essayé de trouver les solutions possibles. Et puis, on est allé essayer avec les meilleurs pour, selon les situations, selon les matchs. Puis, c'est encore là, je donne crédit à ce staff technique-là, à GF. Puis, tu as bien dit. Et puis, malheureusement, qui nous a pas permis de passer à l'autre niveau, je crois.
Non, c'est ça, exactement. Fait qu'il faut trouver comment on va être efficace la saison prochaine. Nicolas me demande, est-ce que Maciel doit revenir ou Rida Zouir peut prendre ce rôle-là? Moi, je pense que tout va dépendre de ce qui va se passer dans l'entre-saison. Fait que, il est comme beaucoup trop tôt pour spéculer sur ce qui devrait se passer la saison prochaine. Moi, comme je viens de dire, je pense que il n'y a pas assez de qualité au sein du CF Montréal présentement pour aspirer au sommet, mais il y a trop de quantité. Non. Fait que moi, je pense qu'on devrait rapetisser le groupe et s'offrir des meilleurs joueurs. Et là-dedans, pour moi, Maciel devient une carte dont tu as plus ou moins de besoin. Parce que je pense que Mihailovic, il s'est établi. Je pense que Wanyama est établi. Donc, ouais. L'autre côté, tu as le choix entre Samuel Piet, tu as le choix entre Hamdi, tu as Matko qui pourrait, Milievich qui pourrait peut-être jouer là. Là, si on rajoute Maciel, on rajoute Zouir, et qu'en plus on veut en ramener de la CPL, ça commence à faire beaucoup. Puis on sait qu'on veut un 8 box-to-box, donc il va falloir c'est trouver ça. De la place pour le mettre. Fait que, est-ce que ça vaut la peine de c'est, garder mais... tous ces joueurs-là? Je suis pas certain.
Ouais. Je suis pas certain, puis tu amènes un très bon point. Le box-to-box, là. Même Wanyama, dans le box-to-box, c'était difficile, là.
Ben oui, c'est clairement... en tout cas,
si c'est ça, plus le jeune Wanyama de Tottenham, là.
Non, c'est ça. Si c'est ça qu'on cherchait, c'est un constat d'échec. C'est sûr que Wanyama a été très solide cette saison avec le CF Montréal, mais si on voulait un 8 box-to-box, c'est pas ce que Wanyama a apporté cette saison.
Non, non. Puis je pense que comme je te dis, puis de temps en temps, on faisait la rotation entre lui puis Samuel Piet. Puis je pense que il y a des moments où on a vu que Piet a été efficace dans verticaliser le ballon vers l'avant et non de revenir tout de temps en temps parce qu'on le reprochait souvent qu'il revenait trop vers l'arrière.
Ouais.
Je pense qu'il a été mieux cette année pour verticaliser le ballon un peu plus vers l'avant. Mais encore là, il y avait un peu trop de déchets techniques, pour moi, selon moi, qui fait qu'il y a des moments, c'est là qu'on voyait des fois la frustration d'un Mia,
oui.
Tu sais, où ce qu'il était en position entre les deux, puis il pouvait pas recevoir cette balle-là, parce qu'on savait qu'on était limité à ce niveau-là. Si c'est pas normal que ton 6, il peut pas à chaque fois trouver ton meneur de jeu, là. Il faut qu'il soit capable de trouver ton meneur de jeu. Tu sais, Maradona, quand il est allé à Napoli, il a dit « Amène-moi ce 6, le numéro 6 que je te demande de m'amener, c'est lui que je veux. » Parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il va avoir le ballon, il va le trouver.
C'est ça, donc, exactement. Et elle est importante, cette chimie-là, entre le 6 et ton meneur de jeu. Et le meneur de jeu, clairement, ben, ça va être Mihailovic. À moins que le CF Montréal le vendrait, mais je pense qu'on va attendre encore au moins une saison pour vraiment le faire augmenter en valeur, mais et Matko Miljevic est pas prêt encore à prendre la relève. Donc, ce que je vois, c'est un Mihailovic partant, Matko Miljevic en profondeur, et c'est correct. Donc, il faut trouver le 6 qui va s'assurer que Mihailovic...
Qu'il y a une constance match après match après match.
Exactement, et C'est dans ces contextes-là que Mihailovic va pouvoir devenir un grand meneur de jeu. Je pense qu'il était bon cette année. Il a bien fait le travail.
Il l'a bien fait.
Tantôt. Il a battu le record de passes décisives. Mais pour moi, un joueur dominant dans la position et le rôle de Mihailovic aurait dû être en mesure de prendre le lead du match contre Orlando et dire, regarde, si personne en haut est capable de la mettre dedans, je vais le régler, le problème. Il n'a pas su faire ça, mais je pense qu'il aurait pu décocher des frappes et marquer peut-être.
Et là, pour qu'il puisse être capable d'être le joueur complet de meneur de jeu, c'est ça. C'est comme là, s'il ne trouve pas la solution vers l'avant, il y a des moments que, effectivement, il y a des moments, je pense, qu'il aurait pu changer le match, qu'il aurait pu faire la différence, mais il n'a pas trouvé la solution pour faire la différence. Parce qu'il y a des moments qu'il avait un bon momentum durant le match, mais il ne pouvait pas trouver les attaquants. Puis quand lui, il arrivait devant le filet, mais il n'avait plus l'énergie pour finir au but.
Exactement.
Donc, tu sais, c'est juste
on
une question de...
On revient à notre problème d'expérience aussi.
Oui, on revient souvent à notre problème d'expérience. Mais honnêtement, je pense que jusqu'au dernier match de la saison, le CF nous a gardé...
on y a cru.
Ben oui, on y a cru, puis ils ont failli faire tourner les experts qui nous plaçaient 13e, je pense.
Oui, 14-15e.
14-15e, donc.
Très, très loin. Dernier ou avant-dernier. Nicolas nous demande sur Facebook, pendant que tu parles de CPL, quel joueur qui était en prêt CPL pourrait faire partie du 18 l'an prochain? Présentement, je pense qu'on observe plein, on voudrait en voir plein, mais à mes yeux, à moi, si le CF Montréal veut être compétitif et veut devenir une équipe de premier plan, tous les joueurs qui sont en CPL cette saison doivent rester en CPL la saison prochaine. Pour moi, à mes yeux. Je pense qu'il ne faut pas ramener des jeunes joueurs avec l'équipe. Il faut aller chercher de l'expérience. Il faut amener des joueurs qui sont déjà établis et laisser pousser cet avenir-là pour qu'éventuellement, là, ils deviennent des super subs et éventuellement des titulaires.
Mais je suis d'accord avec toi, JF, parce que si on se dit d'ici 2 ans ou 3 ans, c'est là qu'on veut se rendre, ben, il va falloir qu'on commence à faire grandir cette équipe-là pour se rendre là, parce que je pense qu'on a assez de jeunes, comme on l'a dit tout à l'heure, la 4e plus jeune équipe de la Ligue. Donc, on a assez de jeunes déjà dans cette équipe-là pour pouvoir compétitionner. Maintenant, comme tu l'as bien dit, ces jeunes-là qui sont dans le CPL, je pense qu'ils devraient continuer à se développer dans cette Ligue-là. Et puis, que nous, on va chercher des joueurs plus expérimentés pour permettre à notre équipe d'être un peu plus compétitif. Parce que, who knows, une fois qu'on se rend au play-off, on l'a bien vu avec Vancouver, hein, qui a tout renversé ça. Là. Vancouver, maintenant, ils vont faire les séries. Puis, je pense que ça va être très bénéfique pour ce qui va arriver pour cette ville-là. Et puis, c'est tout dans le bénéfique du développement du foot. Et puis, si aujourd'hui, le CF aurait fait les séries, ben, ça aurait été très bénéfique pour nous, encore.
C'est sûr, c'est définitif.
Ça aurait été très bénéfique pour nous. Donc, je pense que c'est une expérience de plus qui aurait été
profitable
sur le coaching staff, sur les jeunes joueurs et tout. Donc, pour une fois, on peut se dire, on ne peut pas se questionner sur le coaching staff.
Non. Ça, c'est clair. Et je suis content qu'on ait confirmé Wilfried Nancy déjà pour la saison prochaine parce que là, on va chercher une stabilité qu'on a rarement eue.
Voilà.
On sait qu'à Montréal, on a changé d'entraîneur. Et pour avoir déjà été entraîneur, pas à ce niveau-là, mais quand même, je sais que ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est pas vrai qu'un entraîneur peut changer un bateau de bord comme ça en dedans de 2-3 matchs. Donc, le temps de vraiment installer, positionner, analyser, donner du feedback, faire des correctifs, ça prend au moins une saison à un entraîneur-chef pour vraiment dire « OK, là j'ai un problème, là j'ai un problème, là j'ai un problème » et faut s'améliorer. Donc,
et puis pour revenir sur la question de tout à l'heure de l'auditeur, puis pour continuer sur ton point, JF, regarde, on va prendre l'exemple cette année de Mathieu Chouanière.
Oui.
Tu sais, Mathieu Chouanière, je pense que M. Nancy le connaissait très bien. Puis Mathieu Chouanière, qui aurait pensé aujourd'hui qu'il aurait joué autant cette année? Donc, je pense qu'on a un superbe coaching staff qui connaît bien le groupe en ce moment. Puis, avec M. Renard qui fait un très bon travail, à bien communiquer avec son coaching staff. Puis, le CPL en ce moment, ben, les jeunes qui sont là, il faut qu'ils continuent à se développer, puis à aller vers l'avant, puis éventuellement devenir quand ils vont arriver à l'âge de 19-20 ans, ben, qui sont prêts à bien compétitionner à ce niveau-là.
Exactement. Nicolas nous dit, donc rendu là, Zouir et Assi devraient aller en pré-CPL l'an prochain. Pour moi, c'est leur place. Sincèrement, si tu me demandes mon avis, c'est leur place. Je pense que les équipes de la MLS sont limitées à 5 prêts maximum en CPL, ce qui explique qu'on soit obligé là, à certains moments de garder des joueurs avec le club. Mais sinon, pour moi, je comprends que le CF Montréal veut recruter, former, vendre et avoir beaucoup de prospects, mais si le CF Montréal veut être compétitif en MLS, la place à Zouir et Assi est en CPL pour le moment.
Ouais. Mais est-ce qu'ils ont l'âge de ils ont l'âge de U23, eux? Est-ce qu'ils peuvent aller jouer avec le U23?
Oui, encore. C'est ça, parce que la saison prochaine, ils devraient avoir normalement...
Ils devraient commencer le MLS Next Generation, ouais, c'est ça, avec la Ligue.
Exactement. Donc ça va régler un gros problème, et je pense que des joueurs comme Balou pourraient faire un saut là, si on ne perd pas patience, en tout cas dans son cas, parce que ça semble pas bien aller nécessairement, en tout cas... C'est bizarre.
Je ne sais pas si c'est au niveau santé. Je ne sais pas si c'est au niveau santé, parce que je sais que quand il est allé avec l'équipe nationale, il était quand même, il revenait de blessure. Quand il est revenu, il a joué un match du championnat canadien et par la suite, on ne l'a pas vraiment revu. Mais je ne sais pas si c'est une question de blessure ou si c'est une question aussi de gestion. Mais écoute, on a hâte de voir vraiment tout ce temps-là. Qu'il est dans l'entourage de l'équipe, qu'il débloque. On a hâte de voir un tableau débloqué, là. On a vraiment hâte.
Je pense que c'est ça qu'il faut. CPL, tant qu'être là-dedans, la CPL s'installe à Vancouver.
Oui. Oh là là.
J'ai été un peu déçu, pas surpris, parce que je m'attendais, là, j'avais vu passer que ça se passerait sûrement du côté de la Colombie-Britannique. Déçu pour le Québec, qu'on n'aille pas encore de formation. Mais... déçu d'observer que le projet d'implantation au Québec ne soit pas plus avancé que ça, parce que, en vrai, je lisais le communiqué officiel de la CPL aujourd'hui. La CPL s'installe à Vancouver, mais ils n'ont pas de ville, ils n'ont pas de stade. Ils ont un propriétaire qui est déjà propriétaire du Pacific FC.
Ouais.
Pacific FC, là, vite comme ça, c'est à peu près à 3 heures de...
C'est à Longford, BC.
C'est ça. Donc, c'est à peu près à 3 heures de Vancouver. Mais, donc, c'est quand même pas si près que ça. Mais d'avoir un propriétaire qui gère deux clubs au sein d'une même ligue, j'ai un peu de misère avec ça. Tu sais, si jouer ça plutôt une équipe à Bologne, c'est correct. Une équipe en MLS, c'est correct. S'il y en aurait une en CPL, j'ai pas trop de troubles. Mais si demain, jouer ça plutôt achèterait le Toronto FC, je trouverais ça étrange. Ça ferait bizarre. Donc, je suis pas sur l'idée là, de un propriétaire à deux clubs.
Je comprends un peu ce que tu dis. Aujourd'hui, on sait tous que c'est la business. Mais ces investisseurs-là, c'est 6-5 Sports and Entertainment.
Exactement.
Donc, 6-5 Sports Entertainment, donc il y a deux anciens grands joueurs internationaux, Robin et Josh Simpson, qui jouaient pour l'équipe nationale. Donc, eux autres qui sont des entrepreneurs dans la ville de Toronto Real Estate. Donc, depuis un bout de temps, ben ils investissent dans le sport. Et puis, ils ont décidé avec d'autres partenaires d'investir une deuxième équipe professionnelle dans la CPL. Puis, ils ont dit leur plan depuis le début, c'était ça. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, les règles de ownership. Excuse-moi, j'utilise l'anglaise de ownership dans la ligue de propriétaires, dans la ligue de CPL, mais... Donc, c'est des gens, depuis le début, quand ils sont rentrés dans la CPL, ils avaient déjà ce plan-là. Puis, rien ne les empêchait de voir. Moi, ce que je trouve bien lançant dans tout ça, c'est que on s'empêche pas d'avoir deux équipes dans la même province, non seulement, mais on s'empêche pas non plus de faire compétition avec le Vancouver Whitecaps.
Non, c'est ça.
Donc, c'est parce qu'on doit avoir un intérêt exceptionnel pour l'investissement dans le foot, dans la CPL. Donc, je ne vois pas pourquoi non plus au Québec, tu l'as mentionné, tu l'as bien commencé, en disant on ne comprend pas pourquoi les dossiers n'est pas encore avancé. Mais dites-vous que eux, ils sont déjà prêts à faire un stade flambant neuf de 8000 spectateurs pour accueillir en 2023 une deuxième équipe professionnelle dans la ville de Vancouver.
Exactement. Et, tu sais, on ne se fera pas de cachette. Si on regarde, tu le disais, c'est du sport business, c'est de l'entertainment.
C'est ça.
Jouer Saputo, on aura beau me dire, Jeff, jouer perd 10 millions par année avec l'impact de Montréal, avec le CFM. Ouais. Mais la réalité en termes de business, c'est que Jouer Saputo a étalé un chèque de 40 millions pour acheter une formation de la MLS et...
Ouais.
La dernière qui s'est vendue, Charlotte FC, on parle d'une transaction de près de 350 millions. Ouais. Donc, ça donne un bon coussin. Et la CPL est définitivement une ligue qui aura le vent dans les voiles dans les prochaines années. Donc, d'investir maintenant, c'est logique. D'investir dans plusieurs marchés pour après être obligé de les revendre, c'est un calcul qui peut être très, très, très payant là, pour l'équipe d'actionnaires là-bas. Je pense qu'il y a de quoi qui est... C'est une passe financière, finalement.
Écoute, c'est un groupe, non seulement ça, mais ce groupe-là a des équipes qui sont en Europe aussi. Donc, c'est un groupe qui est vraiment implanté, qui veulent vraiment implanter des branches un peu partout. Puis moi, je te le dis, JF, puis tu l'as mentionné, tu dis, est-ce que ça va venir coûter trop cher à un moment donné pour entrer dans la CPL? Effectivement, ça va devenir très cher pour entrer dans la CPL. Et si les investisseurs ici au Québec ne sont pas prêts à donner cette opportunité ou à d'autres joueurs de continuer à se développer, et parce que je pense qu'on a un gros bassin de joueurs quand même. On est la deuxième plus grosse pauvreté. Après Ontario, je pense que on est la province la plus compétitive. Puis BC, ça vient aussi derrière nous. Au niveau amateur, au niveau jeune âge. Puis dans les dernières années, les Jeux du Canada, on a toujours été les deux premiers, trois premiers. Je pense qu'il y a un marché pour ça au Québec. Donc, je ne comprends pas pourquoi que un investisseur ne serait pas prêt ou ne croira pas qu'il pourrait gagner, comme tu l'as bien mentionné, parce que les gens à Vancouver, pour pouvoir investir à deux équipes, puis pour pouvoir compétitionner contre deux équipes, contre une équipe MLS, c'est parce qu'on voit qu'il y a un moyen de faire quelque chose en retour.
Et tu sais, je pense que, bon, il y en a plein qui disent on n'a pas les poches assez creuses. Je pense pas que ça soit vrai. Je vais être franc avec vous aujourd'hui. L'argent, elle est là et disponible. On parle d'à peu près 10 millions pour entrer en CPL. On parle d'un budget annuel entre 4 et 8 millions. C'est impossible qu'à Québec et à Montréal, on soit pas capable de trouver ces sommes d'argent-là disponibles. Mais je suis d'accord avec le fait que les investisseurs financiers n'ont peut-être pas l'intérêt pour le sport parce que c'est une plus vieille génération souvent qui investissent.
Voilà.
Ils ont grandi avec le hockey. Ça se voilà. Peut qu'il y ait moins d'intérêt. Mais voilà. Je me souviens aussi d'avoir entendu un gars comme les gens de Tanguay qui dirigent entre autres le Rouge et Or Football, qui dirigent les Remparts de Québec, dire le soccer, on y croit, on connaît pas ça. Donc,
c'est ça.
Lorsque quelqu'un va venir cogner à ma porte avec un projet sérieux, je vais être là et je vais écouter. Et je le crois. Je crois qu'effectivement, si on va cogner aux bonnes portes, on va trouver les moyens, mais c'est des gens qui sont intelligents, c'est des gens qui vont investir dans des projets qui sont structurés. Urban dit « Bob Young est actionnaire silencieux à Halifax ». Je pense que c'est un peu ce qu'on va trouver du côté de Québec, du côté de Montréal. Des investisseurs silencieux. Il y a une façon de gérer le soccer qui fait en sorte que le propriétaire n'est pas nécessairement d'être obligé d'être là dans le day-to-day, dans l'opération de l'équipe. Ce qui fait que on peut amasser un groupe d'investisseurs qui ne connaissent pas nécessairement le hockey, mais qui soient chapeautés par un groupe de soccer qui vont s'impliquer là-dedans. Rémi nous dit « La CANPL n'est pas en train de tomber dans le piège NASL avec les expansions trop rapides. » Sincèrement, je pense que non, mais d'un autre côté, faudra que la CANPL choisisse comme il faut ses marchés. Faudra pas qu'elle se régionalise. Si ça peut devenir un danger si la CANPL va, par exemple, chercher 8 clubs dans les 2 prochaines années dans l'Ouest, et bien là, ça devient difficile parce que on se le cachera pas, c'est une ligue qui est en développement, est en éclosion. Donc, c'est sûr que, par exemple, une équipe de Terre-Neuve qui doit voyager tous ses matchs à l'étranger au BC, ça se peut qu'ils disent « bon, ça devient compliqué ». Donc, il va falloir bien répartir les clubs, mais je pense pas que l'expansion rapide soit un frein. Au contraire.
Au contraire. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Au contraire, je pense que les propriétaires s'assurent que les gens qui vont investir ont les fonds qu'il faut, puis ils s'assurent que s'ils s'engagent, c'est pour une période de temps. Puis donc, sinon, ben, l'équipe va juste être... je pense que ça va être... Tu sais, toute industrie aujourd'hui ou tout sport professionnel ou toute ligue professionnelle aujourd'hui, quand tu as un marché qui rentre dans le métier ou dans la business, il faut que tu t'assures qu'il reste là pour la vie. Donc, regarde la Ligue nationale avec Phoenix. Ils font tout ce qu'il faut pour que Phoenix y reste. Sinon, Phoenix va être vendu à une autre ville ou à un autre marché. On espère qu'un jour, ça va être Québec. Mais encore là, c'est juste pour vous dire que la CANPL est en train de s'agrandir. Non seulement elle est en train de s'agrandir, mais il y a du monde qui sont prêts à agir. Mais ce n'est pas du monde d'ici, c'est souvent du monde de l'extérieur.
Et ça, c'est un problème, à mes yeux.
C'est là le problème.
Parce qu'on va en parler. Donc, la CPL, la fenêtre, c'est maintenant. Si on veut investir au Québec,
c'est maintenant.
Et la CANPL attire les regards. Et on l'a vu avec Atletico Ottawa, qui appartient à un groupe de géants de l'industrie du soccer, qui est l'Atletico, bien sûr, qu'on connaît tous. Et le problème, selon moi, des groupes étrangers en CPL, et là, on sait que l'OL serait peut-être intéressé, l'OM serait peut-être intéressé, le Red Bull serait peut-être intéressé, et là, on va perdre tout le profit du développement, et moi, c'est ce qui me fait peur, parce que là, les joueurs qui vont évoluer, les joueurs locaux qui vont évoluer avec l'Atletico Ottawa, sont des joueurs qui ont été formés, qui ont joué U5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec la structure de soccer d'Ottawa.
Donc, à Ottawa, exactement. À Ottawa.
Sauf que à partir du moment où ces joueurs-là deviennent possession de l'Atletico, si l'Atletico les vend à fort profit du côté de l'Europe, ça ne donne rien à Soccer Ottawa. Ils vont mettre zéro puis une barre dans leur poche. Alors, ça ne favorise pas la croissance du soccer, ça ne favorise pas l'augmentation de la culture soccer. Finalement, il y a beaucoup plus de côtés néfastes que positifs à voir que des groupes étrangers. Ça donne, à un certain point, une crédibilité à cette ligue-là. Donc, on en aille un ou deux, ça ne me dérange pas. Je vis très bien avec ça. Mais d'avoir que des groupes étrangers, je pense que tout le travail qu'on fait de développement de nos joueurs de soccer canadiens, on va le perdre.
Oui, malheureusement. Mais c'est un phénomène qui est un peu mondial. JF, les groupes étrangers, on va en voir un peu partout. Et surtout que le Canada, c'est tout jeune. Hein? Cette ligue-là, elle est tout jeune. Donc, si ça coûte pas si cher pour investir, donc si on veut investir dans un vrai développement, puis on y québécois au projet. C'est un marché qui est très abordable. C'est pas comme certains marchés en Europe. Si on revient à notre propriétaire ici, qui a le CF de Montréal et qui a en Italie la Bologne, donc c'est deux marchés complètement différents, c'est deux cultures complètement différentes. Donc la réalité, elle est complètement différente. Comprenez? Puis, pour revenir un peu sur tes points clés, c'est que aujourd'hui, ben, il faut qu'on commence vraiment à cibler quels sont nos intérêts à nous de créer notre propre ligue qui est l'objectif premier selon moi, qui est nos joueurs canadiens à nous,
Oui,
selon moi, nos joueurs
exactement.
canadiens à nous. Après, mais quand les étrangers arrivent ici puis investissent, mais écoute, JF, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un le fait. Parce qu'on en a souvent parlé que on a du monde qui sont impliqués ici dans le foot, puis on sait combien de joueurs amateurs qui sont inscrits à Soccer Québec, par exemple. Puis on sait combien de clubs qui existent au Québec, qui payent beaucoup de frais à Soccer Québec, par exemple. Donc, il y a les moyens de trouver du monde pour mettre un beau projet sur pied, pour essayer de mettre une équipe pour le développement, pour continuer le développement des joueurs au Québec.
C'est
Donc,
sûr.
oui, puis est-ce qu'il faut aller chercher des étrangers aussi pour venir investir, puis qu'on sait qu'à un moment donné, on a aussi le bout du bâton? Ça aussi, je pense que c'est aussi accessible, c'est aussi comprenable. Mais en même temps, je vous le dis, puis on l'a dit souvent, puis tu l'as dit aussi, mais si c'est les étrangers qui vont venir ailleurs, ben le profit va aller ailleurs. Et puis, ben, c'est les jeunes Canadiens, ben, qui vont continuer à venir aider l'équipe nationale à faire la Coupe du Monde, parce que c'est ça l'objectif aussi. Parce qu'aujourd'hui, on regarde les Jonathan Davies, on regarde les Ike. Ça, c'est tous des joueurs qui ont continué leur développement ailleurs. Puis qui aujourd'hui, qui est bénéfique pour l'équipe nationale.
Ben oui, c'est définitif. Ça passe par là et on va le voir à Ottawa, à Edmonton, assez prochainement. La Ligue
Assez
attend
prochainement, ouais.
le bon investisseur pour Montréal car tu n'as pas le droit de manquer ton coup. À ce bout-là, je suis conscient. Je crois que c'est un géant français que la Ligue tente d'attirer. On
Oui.
sait que l'OL, on parle
Oui.
souvent de
Oui.
l'OL.
Oui.
Qui pourrait être très intéressé par un marché à Québec. Maintenant, une question que j'ai le goût de te poser, le rôle, le mandat, la mission de Soccer Québec est de
Oui.
faire rayonner le soccer, de favoriser la culture soccer, de favoriser le rayonnement. Est-ce que tu verrais ça d'un mauvais œil que Soccer Québec dise, nous, on prend la décision qu'on va augmenter un peu partout au Québec les frais d'inscription et on se paye un club CPL. Faut que le Québec soit en CPL et le club, on va le revendre. On va le revendre, mais il faut en implanter un. La fenêtre, elle est là, elle est maintenant. On croit au soccer au Québec. Est-ce que tu verrais ça d'un mauvais œil que Soccer Québec dise, regarde, nous, on va se payer un club, on va l'implanter, puis après, ben là, les investisseurs viendront.
Si
C'est
ça
sûr
peut
que
se
c'est
faire,
jouer de l'argent du monde.
c'est jouer avec l'argent du monde, mais moi je pense que c'est comme être des plusieurs actionnaires. Tu sais, on va prendre l'exemple des Green Bay Packers
Oui.
de la NFL. Green Bay Packers de la NFL. Les citoyens sont actionnaires des Green Bay Packers.
Et
Donc,
ça, je
pourquoi?
pense que c'est un bon modèle.
Ben oui, c'est un super bon modèle. Donc, pourquoi pas investir un certain pourcentage, un certain montant d'argent dans le développement de nos jeunes? Avoir un endroit pour dire que on n'a pas juste le CF de Montréal qui va prendre les joueurs qu'on développe ici à travers nos ligues et à travers nos clubs, mais on a aussi quelque chose pour nos jeunes que pendant des années, et les mamans, les papas qui investissent tout cet argent-là pour le développement physique, santé, pour que ce jeune-là continue à jouer toute sa vie et à être actif toute sa vie, ben Est-ce qu'on peut redonner? Est-ce qu'on peut redonner d'une façon? Moi, je crois que oui, définitivement. Puis après ça, aller trouver les investisseurs, définitivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis pourquoi qu'on le verrait d'un mauvais œil?
Non, c'est ça. Et du côté, je pense que c'est en Bundesliga que c'est quand même familier, où on a des clubs qui appartiennent, on va dire, au peuple,
Au peuple.
à un certain pourcentage. Et je pense que c'est un bon modèle dans la nouvelle réalité du monde des affaires, du soccer. Donc, faut pas bouder ces initiatives-là. Et pour moi, le problème présentement au Québec, c'est qu'on tente d'implanter la CPL, mais on tente de travailler à l'envers. Et je vais m'expliquer là-dessus.
Oui.
C'est que quand je regarde Austin qui vient de joindre les rangs de la MLS, ça fait 3 ans qu'on voit Matthew McConaughey partout sur la toile, partout où ce qui peut se mettre la face habillé en vert. On a vu les ultras de Austin être créés il y a plusieurs années. On les a vus avec le maillot, avec le on veut un club, jusqu'à l'annonce de l'arrivée du club en MLS. On avait déjà un fanbase. Et d'après moi, la journée qu'on a annoncé l'expansion de la MLS du côté de Austin, d'après moi, les billets de saison étaient déjà tous vendus avant
Tous
même
vendus.
l'annonce. Alors que l'impression que j'ai présentement de l'arrivée de la CPL au Québec, j'ai l'impression que c'est plusieurs petits groupes qui travaillent sans dire en cachette, mais qui ne veulent pas trop dévoiler le projet, ne veulent pas trop s'avancer, ne veulent pas trop dire c'est qui, veulent pas sortir publiquement. Mais moi, je me dis, mais on est en train de travailler à l'envers. Dis, moi, je suis fier, moi, je veux un club, on va
C'est
créer
ça.
une hype, on va créer une fanbase, on va pré-vendre des billets de saison. À un moment donné, les gouvernements n'auront pas le choix de nous écouter et dire, OK, là, il se passe quelque chose dans le monde du soccer. Il faut des stades, il faut des infrastructures, il faut des gens. Et la communauté d'affaires, pardon, est pas folle non plus. Lorsqu'elle va sentir cette hype-là, mais demain matin, si je vais cogner à la porte de chez Ameublement Tanguay pour dire investissez dans le club de soccer, il va me dire, mais qui parle de soccer? Qui me
C'est ça.
parle de soccer?
C'est ça que...
Tandis que si tu arrives et que ça fait 4 jours que tu es sur TVA, mur à mur, puis qu'il y a des initiatives à gauche et à droite, et que partout on sent cette vibe et cet amour-là pour le soccer qui existe, mais qu'on ne voit pas parce qu'il n'y a, y a pas de hype, ben, là, ça se peut qu'ils disent, OK, prends une chaise, on va discuter de ton projet.
On va discuter ton projet, puis on veut comprendre c'est quoi la culture du foot. On veut comprendre pourquoi investir dans ce sport. On veut comprendre qu'est-ce que ça va nous rapporter parce que c'est un investissement. Est-ce que ça va faire en sorte que la communauté va être plus proche? Donc, il y a plein de débats qui pourraient être abordés, mais Jeff, c'est que les gens doivent comprendre que pour mettre un projet comme ça sur pied, il faut que tu sois sûr de ton coup.
C'est ça.
Puis, il faut que tu sois sûr de ton coup. Puis, non seulement tu dois être sûr de ton coup, mais tu dois t'assurer d'avoir les fonds qu'il faut parce que tu ne veux pas rater ton coup. Mais si on hésite à en parler, c'est parce qu'on n'est pas sûr de nous.
C'est ça, à la base.
À la base, selon moi, c'est une logique qui est claire. Si on n'est pas sûr de vouloir mettre ça dans les réseaux sociaux ou de faire toute la publicité alentour, c'est parce qu'on le sait qu'on n'est pas sûr et certain que ce projet-là pourrait fonctionner. Donc, il nous faut des gens sûrs et certains qui veulent embarquer dans le projet. On ne veut pas un genre de situation comme les expos, là, un Gloria qui est arrivé puis qui nous a pris les expos puis qui est parti avec.
C'est ça, exactement. Faut éviter, tu sais, ça à tout prix. Et, tu sais, je suis en train de suivre un cours là, sur l'école de gestion de l'Université de Liège, qui est comment nice. Gérer un club de football professionnel dans le monde entrepreneurial. Puis,
super.
Tu sais, on comprend que la donne est en train de changer dans le monde sportif, où l'argent...
Beaucoup.
Avant, à une certaine époque, elle se trouvait à billetterie et par les maillots. Et à cette heure-là, c'est plus ça. Puis c'est drôle parce que plus j'avance dans le cours, plus je me rends compte que je comprends ce que le CF Montréal est en train de mettre en place, t'sais, tranquillement pas vite, en tant que business plan. Parce que,
ouais.
T'sais, si je regarde la structure vite comme ça, là, je partage avec vous autres, en 2006... Sur les revenus d'une formation, 43% provenaient des recettes de jours de match. En 2016, ouais. On était rendu à 21%. Donc, on a perdu la moitié juste en billetterie. Et la commercialisation est passée de 28% à 52%. Ça veut dire que c'est tout ce qui est création de contenu, création de podcast, création d'avantage audio, on va le dire comme ça, et de merchandising de ce club-là qui est devenu le fort de lance de la réussite. Mais quand je regarde...
Mais d'où vient l'importance, JF? D'où vient l'importance d'avoir une bonne relation avec ton fanbase? D'où vient l'importance, JF, d'avoir une connexion avec les membres du foot amateur ici au Québec? Tu sais, on a souvent parlé de ça. Puis je pense que s'il y a un point, je pense, dans le passé que je peux, moi, reprocher personnellement en tant que joueur qui a grandi, puis qu'un jour, moi, j'ai vu le Supra, puis toi, tu as eu la chance de voir le Manic. Après, on a vu l'Impact qui est arrivé, puis là, maintenant, le CF de Montréal. Crois-moi que chaque petit garçon qui rêve un jour de jouer professionnel ici au Québec pense un jour de mettre le chandail du CF de Montréal sur son dos.
C'est sûr.
C'est sérieux. Ben oui. C'est normal parce que c'est ta ville. On s'identifie à ça. Donc, après, quand tu vois que tu n'y arrives pas ou tu arrives à ce niveau-là, puis c'est une autre situation, c'est une autre game, mais à un moment donné, il faut que le club... Moi, c'est ce qu'il y a... Ça, c'est une des plus... Tu sais, j'en ai pas parlé tout à l'heure quand on parlait du bilan du CF de Montréal. S'il y a une chose que je rajouterais, moi, dans le bilan de fin de saison, c'est la mauvaise gestion hors du terrain qui a nuit à la saison du CF de Montréal. C'est la chose que je peux leur reprocher. Tu sais, là-dessus, je pense qu'ils ont un devoir, une responsabilité.
La communion entre l'organisation et son fanbase.
Oui,
parce que... L'impression que j'ai, là, c'est... Et quand je regarde là, mon document, ça me dit... Tu sais, c'est une pyramide, le soccer. Fait que là, t'as les 22 000 qui peuvent entrer au stade. Et après ça, t'as ceux qui te suivent sur Twitter. T'as ceux qui ont de l'intérêt pour le soccer. T'as, donc, ton public, il s'agrandit jusqu'à atteindre la population maximale du Québec. Tu n'iras pas plus que ça. Mais... Le CF Montréal, le problème, pour moi, c'est qu'il s'adresse en haut de la pyramide aux 22 000 qui peuvent rentrer dans le stade. Et c'est là le problème. C'est là le problème parce qu'ils ratissent beaucoup trop petit. En fin de semaine, je regardais le match face à Orlando. Et je partais de Rivière-du-Loup pour me rendre à Montréal. J'aurais aimé ça sur le bord du chemin, voir une pancarte CF Montréal. J'aurais aimé ça dire, tu sais, voir, hey, on est là. On est, tu sais, il y a une hype, il y a une vibe à Montréal. Je regardais tantôt, un de mes amis m'a envoyé une campagne publicitaire de Weekend qui est en train de s'installer, Weekend Radio. À Montréal, ils sont partout. Mm-hmm. Tous les murs quasiment, pas les murs, mais les panneaux publicitaires de la ville de Montréal sont au jaune, avec tous des slogans différents qui veulent à peu près tout dire la même affaire. Écoutez Weekend Radio. J'aurais aimé ça, avoir cette vibe-là le CF Montréal. Parce que c'est là que tu as l'impression que tout le monde parle et le monde attire le monde.
Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait
Donc,
d'accord avec
c'est.
toi. Puis je pense que ce côté-là, on doit se questionner beaucoup. Puis moi, c'est seulement quand je passe sur la rue Notre-Dame, je vois la pancarte devant le Nutrilait. Sinon, je n'ai pas vu ailleurs, peut-être sur la rue Sherbrooke aussi, tout près du stade. Mais tu as entièrement raison, si je m'en vais à Montréal, je pense qu'il y a un certain de. On l'a dit déjà dans le passé, mais je pense que cette connexion-là, elle a toujours été difficile à faire. Il
Ben
va
oui.
falloir trouver une façon de se connecter vraiment au peuple, puis de ramener les vrais passionnés dans les estrades.
Et tu sais, moi, je pense que en fin de semaine, il fallait que les autobus du transport en commun de Montréal soient affichés, pas
Ouais.
affichés, mais enveloppés aux couleurs du
Enveloppé.
CF Montréal.
Ouais.
Fallait que
Ouais.
ça
Ouais.
soit sur tous les wagons de métro.
Comme les
Fallait
Canadiens de
que.
Montréal. Ouais.
Exactement. Tu vas à
Ouais.
l'épicerie, tu sors
Tout à fait
de là,
d'accord.
regarde, on te
Ouais.
donne une bouteille de Let's Go en forme du maillot du CF Montréal parce qu'on sait que Let's Go appartient à Saputo. Donc, tu t'en vas à l'épicerie, regarde, à la sortie, on te donne une bouteille de lait, Let's Go Sport, regarde, Saputo, merci, bonsoir,
C'est
allez au
ça.
stade.
Je
C'est
suis
cette
tout à fait
vibe-là,
d'accord avec toi, c'est vrai. Il
c'est
faut que ça
cette
soit comme ça.
vibe-là qui a
C'est
manqué,
cette
ben
vibe-là
oui.
qu'on veut. Et tu sais, j'ai un jeune qui est allé jouer en Allemagne, essayer en Allemagne, puis il me disait qu'il a eu la chance d'aller voir Borussia. Il m'a dit, Arius, le mat cette journée-là, je pense qu'il n'y a personne qui travaille. Dans le matin même, toute la ville est fermée et barrée. Donc, le monde se prépare pour le match. Donc,
Exactement.
c'est la culture qu'il y a, tu sais, c'est juste la différence que je dis. Mais, OK, en fait, c'est vrai qu'on est ici, OK, en Amérique du Nord, ben, on a un autre rythme de vie, mais il reste que je suis tout à fait d'accord avec toi, JF, il faut qu'on trouve un moyen de rapatrier les vrais fans de soccer, les vrais passionnés, et puis pour que, en fait, cette semaine, je pense que ça serait senti si on avait les vrais dans les estrades, hein.
Ben, tu sais, pour être franc, là, quand je suis arrivé beaucoup plus serré que ce que je pensais, puis j'avais eu plusieurs
Ouais.
invitations à aller voir différents tailgates du
Ouais.
CF Montréal, mais finalement, ce que je me suis rendu compte, parce que je réside pas à Montréal, mais
Ouais.
tu sais, je me suis rendu compte que le CF Montréal, là, ça se passe dans le stationnement du Stade Saputo, finalement, tu sais,
That's it.
puis
C'est ça. C'est ça.
t'as en tout cas quelques tailgates répartis
Ouais.
à droite et à
Réparti.
gauche, mais ceux qui représentent ton club, ceux qui faisaient le plus de bruit dans le tailgate, c'est ceux que tu passais dans la rue qui avaient des fumigènes, peu importe, des bannières. C'est ceux-là qui n'étaient pas admis dans le stade. Donc ça marche pas parce que
Ça marche pas.
on était dans le stade, puis j'étais dans la section des 1642 en 114,
Ouais.
qui ont fait un travail remarquable, soit dit en passant.
Ouais.
Mais on entendait les ultras sur le
Toi.
côté, à l'extérieur. On les voyait, on sentait les fumigènes, on a vu les tifos à la télé, pas à la télé, mais en tout cas, on les a vus sur les réseaux sociaux. Et là, on a dit à ces gens-là, vous rentrez pas dans le stade.
C'est
Mais
ça.
c'était fort possiblement tes meilleurs ambassadeurs. Puis, je peux comprendre là, que, tu sais, bon, il y en a qui ont brassé, qui ont cherché le trouble, puis. Tu sais, bon, il y a la culture hooligan qu'on veut pas trop s'approcher, puis bon, je comprends tout ça, mais on aurait pu peut-être dire à ces gens-là, merci de votre support, merci de votre appui. On va essayer de rétablir les ponts à cette heure que Kevin est parti pour ce match-là et juste, mettons, significatif à la première, à la demi, à l'entracte. Rentrez donc. Rentrez dans le stade et venez enlever la toile. Venez enlever la toile qui ferme votre section et prenez place. C'est votre stade. T'sais, ça aurait été fabuleux. Sincèrement, là,
Ça
le
aurait été une
statement.
histoire hollywoodienne, je pense.
Le statement de l'annonceur maison qui dit, hey, on a quelque chose de spécial pour vous. Regardez ce qui s'en vient. De voir les ultras menés par le capot et les tambours qui enlèvent le fameux droit devant qui recouvre la section et des voir ouais. prendre place, c'est sûr. C'est sûr qu'on a intimidé Orlando. C'est définitif. C'est sûr.
Mais en tout cas, moi, je l'ai senti qu'il manquait un peu de vibration, un peu d'émotion. Dernier match, JF, dernier match, il faut tout donner là, pour que tu fasses les séries. Là. Est-ce que tu as vu la réaction de Vancouver après qu'ils ont fait le match nul contre Seattle? C'était comme s'ils avaient la Coupe du Monde, là, parce que ça faisait longtemps qu'ils voulaient faire les séries. Oui. Je pense que la vraie saison, c'était cette année. On a eu une saison complète, du début jusqu'à la fin, puis on est passé à ça. De faire les séries avec une équipe si jeune. Donc, je pense que c'est quelque chose de très positif.
C'est un beau succès.
C'est quelque chose de positif.
Je pense que, à part la relation entre le club et les partisans et la fanbase, je pense que toutes les indicatifs sont au vert pour le CF Montréal. Il y a eu ça. Et faudra plancher là-dessus. Trouver un moyen de ramener ces gens-là dans le public. Maintenant, bon, comment ça va se faire? Est-ce qu'il y avait déjà des plans pour modifier la 132? Est-ce qu'on en a profité? Est-ce que ces gens-là vont venir sans qu'on revienne à l'impact? Tu sais, je comprends qu'il y a une grosse discussion et qu'on ne peut pas prendre ça sur un coup de tête. Et... je comprends que si on ne l'a pas fait, c'est peut-être parce que ce sera le rôle du nouveau président de le faire. Tu sais, on ne veut pas régler les dossiers à sa place, puis c'est correct, mais ça aurait été un beau statement de les avoir là pour la fin de la saison. Et les avoir contre Toronto FC le 21 novembre prochain, ça serait fou également. Oui. Pour la finale du championnat canadien, ça serait le fun des avoirs et d'avoir un stade complètement ouvert.
Ouais.
Le CF Montréal souffre d'un manque de rivalité. Qui d'autre à part le TFC, ce que la CPL a compris et tente d'accomplir plus de rivalité au pays? Effectivement, ouais. Je pense que trois clubs canadiens à travers la MLS, c'est plus difficile pour la rivalité parce que bien que il y a plusieurs équipes américaines qui sont plus près de nous que les Vancouver, il y a plus de rivalité avec Vancouver qu'il y en a avec certains clubs américains. Et tu sais, au hockey, on le sent. Montréal-Boston, c'est une rivalité qui est franche. CF Montréal, Revolution Nouvelle-Angleterre, c'est pas la même réalité. Donc, je pense que d'avoir plus de clubs canadiens aiderait. Et la CPL va effectivement réussir à accomplir ça. Parce qu'on va être que canadiens.
Oui, puis non, ça c'est important. Puis ce qu'il dit, c'est très important aussi. Parce que TFC, par exemple, il y a York dans la CPL. York, York, ils jouent à York University. Puis ils sont pas loin, là. Ils sont pas loin de Toronto. Fait que je pense que cette rivalité-là fait en sorte que ben, le club, tu sais, on l'a souvent aussi mentionné dans le passé, le club ne peut pas penser qu'il est seul. Il ne peut pas penser qu'il a le confort de dire que moi, je suis seul et puis je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Et en Angleterre, juste à Londres, il y en a combien de clubs?
Exactement.
Professionnels, on s'entend?
mais ça, donc, ça t'amène vers en haut.
Voilà, c'est juste là que ça peut t'amener. Donc, tu sais, si tu veux pas te questionner par rapport à le travail que l'autre fait, même s'il est plus un niveau, tu considères qu'il est un niveau plus bas que toi, mais on a vu cette année que le CF de Montréal a dû aller jusqu'au bout avec Hamilton. Donc, fait que le niveau est pas si loin là maintenant. Le niveau est pas si loin.
Non, donc, tu sais,
donc, il faut vraiment commencer à prendre ça au sérieux. Puis je pense que l'ouverture, elle est là. Puis comme tu as dit, la fenêtre, elle est là. Il nous faut une équipe dans la CPL. Puis il faut que le CF de Montréal accepte qu'il y a de la compétition pour qu'on monte le niveau puis, et que la rivalité soit agréable.
Mais là, Arius, mais que j'ai fini de lire tout ça, là, je vais être bon pour avoir mon club CPL.
Mais moi, je suis prêt, hein? Je t'attends. Hein?
Ah oui, il faut faire ça. Faut faire ça. Ouais. Faut, non, ouais. Sans farce, je pense qu'il y a de la place. Un commentaire qui me rejoint aussi, c'est celui de Jimmy sur Facebook. Aucune série en 5 ans. Les rivalités, ça se construit en série. On s'est fait sortir l'an passé par les Revs. Maintenant, je les déteste. Ouais. C'est vrai, ça aussi. C'est dans les matchs serrés qu'on se fait des ennemis et qu'on lève un peu le ton. Donc, c'est sûr qu'une place en série, ça aiderait le CF Montréal à créer un peu de lien avec les autres équipes.
Ouais.
Si on fait une vision globale des choses, le FC connaît de meilleurs succès que le Canadien. Maintenant, on a créé une ligue l'année dernière dans la LNH 100% canadienne. Pourquoi pas faire pareil dans la MLS? Je le sais pas, mais tu sais, la CanPL, on dira ce qu'on veut. Il va falloir qu'elle accepte son rôle d'être de deuxième division. Et tu sais, à ce niveau-là, c'est sûr qu'elle sera toujours derrière la MLS. C'est pas pour rien que depuis le départ des Nordiques, on a essayé de rentrer à Québec la Ligue américaine. On a essayé la East Coast. On a essayé.
Plein de choses.
Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Non. Parce que les gens ont goûté à la MLS, à la Ligue nationale.
À la Ligue nationale.
C'était le plus beau niveau. C'était le niveau le plus élevé au monde.
Ouais,
maintenant.
Ouais.
Même la MLS n'est pas le niveau le plus élevé au monde, alors je pense que la CPL peut quand même tirer son épingle du jeu et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais par contre, c'est ça, il faut qu'il y ait des équipes et il faut qu'il y ait des équipes au Québec, là.
Il faut absolument. Puis je pense que notre idée, elle est claire. Puis sinon, ça va jamais, jamais, jamais évoluer. Puis on ne saura jamais vraiment quelle est vraiment la vraie valeur de notre équipe professionnelle qui est la seule dans la province. Et puis, il faut qu'on commence à créer ce genre de rivalité-là pour qu'on continue à dire que, bon, éventuellement, ben, on pourrait avoir deux bonnes équipes professionnelles. Puis tu l'as bien dit, JF, la CPL ne pourra pas en ce moment atteindre le niveau de la MLS. Peut-être un jour, on va atteindre ce niveau-là, mais en ce moment, elle est loin de ce niveau-là.
C'est ça, elle va grandir.
Elle va grandir, puis la MLS, aujourd'hui, est capable d'attirer des très grandes vedettes, contrairement à la CPL qui a les moyens puis le budget aussi pour attirer des très grandes vedettes. Puis on s'entend que en ce moment, c'est pas une ligue qui est très, 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 très rentable en ce moment. Pour certains endroits, pour certaines places, mais c'est éventuellement une ligue qui va avoir les contrats télévision ou quoi que ce soit, qu'on travaille dessus, que le président a un mandat à faire pour amener la ligue à un autre niveau côté marketing. Parce qu'on s'entend que la MLS, c'est ça sa force.
Ben
c'est
oui.
Vraiment le côté commanditaire marketing qui fait que aujourd'hui, ben, on peut considérer la MLS comme une ligue numéro un mondiale.
C'est sûr. David nous dit on a échappé de belles cette année des matchs qu'on aurait dû gagner, effectivement. Mais
ouais,
ça,
David,
ça fait partie, ça fait partie de la saison. Et tu le disais tantôt, Arius, on a failli l'échapper face à Hamilton où on s'est rendu au tir de barrage contre Ford.
Barrage. Belle casquette.
Ça n'a pas été facile. Mais tu sais, je regarde Toronto FC. Et ils ont travaillé fort, eux aussi,
fort.
Pour venir à bout de
Pacifique. Qui a une belle saison cette année, qui a une excellente saison cette année.
Et Toronto a une des plus grosses masses salariales, sinon la plus grosse de la MLS cette saison. Et ils avaient reposé des joueurs en plus en fonction de ce match-là. Et Pacifique n'a pas été déclassé. Là. Ça a fini 2-1 cette rencontre-là. Donc, c'était de bon augure. La CPL, Urban Philosophy, la CPL refuse le rôle de deuxième division, mais bien première division qui aura ses deux places en CCL. Ça, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais effectivement, c'est une bonne nouvelle. Elle perçoit la MLS comme une ligue américaine en dehors de la pyramide.
C'est vrai.
Ça, c'est un bout qu'il faudra éclaircir éventuellement parce que normalement, faut que tu joues au plus haut niveau que de ton pays. Alors, est-ce qu'éventuellement, on va relocaliser les équipes MLS en CPL? Vraiment, présentement, je pense que la MLS est une coche en haut. On avait autorisé les équipes canadiennes en MLS parce qu'on n'avait pas de CPL. À ce temps qu'on a la CPL, est-ce qu'on va demander aux équipes éventuellement canadiennes d'aller rejoindre la CPL? Si ça se fait, ça sera une demande de la FIFA et non de la MLS, j'en suis certain. Mais quoi qu'il en soit, présentement, la CPL n'a pas le niveau pour accueillir, selon moi, les trois équipes MLS. T'sais, elle n'a pas, c'est pas simplement le niveau, elle n'a pas la structure, elle n'a pas
Non, non.
la portée de la MLS et ça serait
Non.
de brûler le marché canadien du soccer que d'amener les équipes présentement en CPL. Je pense qu'éventuellement, si on se donne du temps, cette ligue-là peut atteindre un certain niveau. Maintenant, est-ce qu'on fera deux divisions, promotion, relégation? Peut-être que oui, mais des marchés canadiens niveau MLS, qu'on le veuille ou non, il y en aura jamais 32, là.
Ah, jamais, puis je pense que ça va être difficile. Puis déjà, on a de la misère à avoir un dans une des grandes provinces. Donc, tu sais, Vancouver, on a déjà deux. Toronto, on a plusieurs dans la grande région. Écoute, puis il va falloir qu'on continue à aller vers l'ouest, je crois, pour continuer à faire agrandir ça. Calgary en a un. Donc, tu sais, je pense que. Oui, la CPL va être reconnue comme une ligue une première ligue ici, une première ligue division ici au Canada, mais ça sera jamais le niveau de la MLS. Je suis d'accord avec toi.
Parce que dans le
Puis,
fond, là, y a quoi dans la Ligue nationale de hockey, là, il y a six, peut-être six équipes canadiennes ou à peu près.
Toronto, Montréal, Ottawa, Vancouver, Edmonton, Calgary,
Winnipeg,
Winnipeg.
sept.
Sept.
Donc à peu près sept formations canadiennes. Donc, tu sais, je pense que ça serait les marchés potentiels logiques également
Ouais.
pour. La MLS, disons.
La
Donc,
MLS, ouais.
rajoutons peut-être éventuellement Québec, mais je pense qu'on n'est pas rendu là. Il faudrait franchir certaines étapes avant d'arriver à ce niveau-là.
Moi, je
Mais
pense que 12 bonnes équipes, là, 12 bonnes équipes, là, ça serait en ce moment le top dans la CPL.
je pense que
Pour
oui.
faire une belle ligue là, pour faire une belle
Parce que
ligue
sinon,
intéressante.
là, tu sais, tu vas te retrouver avec des demi-marchés. Qui
Voilà.
éventuellement, si tu veux à faire croître ta ligue, ils seront pas capables de suivre. Je
C'est
donne
ça.
un exemple, c'est que présentement, si la CPL veut absolument s'étendre au Québec, je suis sûr qu'elle fermerait pas la porte à l'arrivée, par exemple, d'un marché comme Trois-Rivières, qui dirait, hey, nous autres à Trois-Rivières là, Québec dort, Montréal dort, fait
C'est
qu'on va
ça.
embarquer, mais
Ouais.
la CPL, c'est sûr qu'elle va aller de l'avant si elle a la chance de le faire. Mais par contre, lorsque
Définitivement.
la CPL va dire, nous, on a l'ambition d'aller se battre contre la MLS, là, les marchés comme Trois-Rivières, ça va être plus difficile.
Plus
Donc,
difficile, beaucoup plus difficile.
si on a Trois-Rivières qui embarquent, puis là, on se met à mettre des équipes dans la Beauce, par exemple, pour avoir 4-5 équipes et éventuellement une ligue à 32. Ben là, je pense qu'on dilue trop le talent là, et on n'aide en rien cette ligue-là.
Est-ce qu'il y a un marché très intéressant, par exemple, à Vancouver, si on prend l'exemple, si on revient à la situation de Vancouver
Oui.
en ce moment, où ce qu'on voit deux propriétaires de le même propriétaire investis dans la même province, c'est parce que le marché est très intéressant. Il a dû faire son travail, le monsieur, là. Ces investisseurs-là ont dû faire leur travail. Donc, est-ce que notre marché est très intéressant pour avoir une deuxième équipe professionnelle? C'est peut-être ça qui fait hésiter les gens qui veulent investir parce que Monsieur Saputo perd déjà 11 millions en moyenne par année.
C'est
Il
ça.
perd déjà beaucoup d'argent. Donc,
Ben oui.
est-ce que moi je suis prêt à investir dans une CPL qui va me coûter à peu près 15 millions à ronner par année ou est-ce que je vais perdre à peu près par année dans la moitié du 15 millions? facilement.
C'est ça, exactement. Donc, ça devient pas facile.
Jimmy nous demande,
comme l'impact en NASL qui a monté en MLS, c'est ton époque, ça, l'impact en NASL?
C'est la A-League, ouais, c'est ça.
La A-League, c'est ça.
Ouais,
donc,
ouais.
Y a-t-il une bonne équipe qui a le potentiel de monter en MLS? Je pourrais pas vous dire parce que ça va, selon moi, au-delà de la performance sur le terrain. Ça dépend de l'infrastructure, ça dépend de l'organisation, de comment est-ce qu'on voit le branding, de comment qu'on va vendre cette équipe-là. Mais chose certaine, si on est capable de faire vivre des marchés de la Ligue nationale, moi, je pense qu'en MLS, on est capable de placer au moins une formation entre Vancouver et Toronto. Je ne peux pas croire qu'à la grandeur du Canada, on n'est pas capable de faire vivre une équipe entre Vancouver et Toronto.
Et Toronto. Donc, moi, ça m'étonne que Edmonton ou Calgary n'ont pas une équipe.
Exactement. Edmonton, Calgary seraient des équipes qui auraient le potentiel de se greffer à la MLS. C'est des marchés définitivement qui pourraient arriver en MLS. Ouais. Maintenant, c'est ça. C'est de voir est-ce que il y a l'ambition de le faire chez les propriétaires actuels. Est-ce qu'ils ont les infrastructures, ils ont la vision, ils ont l'équipe également pour le faire?
Ils ont deux stades dans la Ligue de football canadienne qui pourront utiliser. Tu sais, c'est comme les Rebs utilisent le stade de New England Revolution, de New England Patriots.
Exactement. Puis donc, je pense Chicago, il n'y a pas longtemps qu'on voyait encore les traces du terrain de football.
Oui, exactement. Donc, je pense qu'il y a moyen là, d'investir une autre équipe de MLS au pays. Après, par la suite, je pense que est-ce que cette équipe-là va avoir les moyens de... Parce que maintenant, ça coûte cher de rentrer dans la MLS. Hein?
Ben oui, ça coûte très, très cher. Je pense que c'est 350 millions la dernière. Charlotte qui rentre la saison prochaine et on a Sacramento là, qui a dit non, nous autres c'est trop cher, on sortir là, parce qu'avec la pandémie, c'est Sacramento qui devait avoir une formation puis qui ont dit regarde, avec la pandémie, nous autres on est plus dans la course. Donc, la MLS, tu vois, c'est une info que j'avais pas. La MLS a fermé la porte à de nouvelles expansions au Canada et Soccer Canada a un moratoire sur les nouveaux clubs aux États-Unis. Donc, j'avais pas cette information-là. C'est important de le savoir et de le partager.
C'est le fun.
Edmonton
merci.
Serait très faisable. Si tu es un proprio d'Edmonton, tu dois te viser toujours plus haut. Donc, oui, effectivement. Mais là, si justement nos organisations de soccer font en sorte qu'on n'est pas capable d'entrer de nouveaux marchés, je pense que ça clôt.
Mais si ça serait, si les Oilers d'Edmonton seraient intéressés à investir dans une équipe de soccer, par exemple, c'est comme... Beaucoup
ça
d'autres...
ouvrirait des oreilles.
Ben oui, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain.
Fait qu'il faudra...
Le Canadien de Montréal serait pas intéressé à investir dans une équipe de soccer au Québec?
Moi, je comprends pas. Tu sais, dans le...
La famille Molson.
C'est ça. Et dans la diversification, tu sais, aujourd'hui, tout est là-dedans. Puis je pense que... Tu sais, le Canadien de Montréal est rendu à un niveau où c'est de l'entertainment plus que du hockey. ils ont des tentacules un peu partout. Je pense que ça pourrait être des actionnaires, mais...
Ben oui!
Tu sais, moi je peux pas comprendre. Puis si Molson a investi autant d'argent dans le Canadien, tu sais, je peux pas comprendre qu'avec la présence d'un Labatt ici... on a le Centre Bell avec la présence d'un joueur comme Vidéotron. Avec toutes les grosses entreprises, c'est impossible. Mm-hmm. C'est impossible qu'on ne soit pas capable de trouver ce qu'il faut pour mettre au moins un club CPL au monde. C'est sûr que c'est un manque de volonté.
Hein. Définitivement.
Soit politique, soit de la communauté d'affaires, mais c'est pas une question d'argent. L'argent est là, elle est disponible. Reste à croire au projet.
Il faudrait aussi faire un cours dans la politique, je pense, JF, pour pouvoir...
Exactement. On pourrait avoir plus de détails.
Plus de détails.
En terminant, je prends un dernier commentaire oui. urbain. Soccer Canada a bloqué la création d'un club USL à Calgary pour Vancouver. Ils ont aussi bloqué Hamilton pour que Selfridge puisse y jouer. Ça date d'avant 2019. Donc, tu sais, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de pas d'ingérence, mais il y a beaucoup de mainmise. Dans le monde du soccer, donc faudra trouver le secret. Québécois est peut-être la pierre c'est angulaire. Bon nom, ça.
Ouais.
Jimmy, qui dit très intéressant votre entrevue, chapeau à ton invité. Arius,
merci beaucoup, Jimmy.
Regarde, Jimmy, Arius a le gilet BBN Média. C'est mon co-animateur. C'était plus difficile.
oui, cet été, c'était un peu plus difficile.
Mais oui, on devrait se reprendre là, éventuellement sur une base beaucoup plus régulière.
Merci beaucoup.
Jimmy qui est nouveau avec nous là, il n'y a pas longtemps. Fait que juste expliquer à Jimmy, Arius est un joueur de soccer professionnel. Donc, tu sais, il sait de quoi qu'il parle et c'est le fun d'avoir ça. Parce que tu as vécu quand même des grands moments avec le soccer là.
Oui, j'ai eu la chance. Écoute, depuis l'âge de 18 ans, je suis élevé au Québec. J'ai eu la chance depuis l'âge de 18 ans de signer un premier contrat professionnel à Chicago. Puis ça, c'était dans la NPSL, National Professional Soccer League. Et puis c'était les Arena Indoor Soccer League. Puis après, par la suite, j'ai eu la chance de jouer USL, justement, aussi avec Vancouver, New Hampshire. J'ai eu la chance d'aller un peu partout, donc aux États-Unis, puis jouer des matchs vraiment superbes, puis des beaux niveaux dans ce temps-là surtout. Et puis ça, c'est dans les fins des années 90. Donc, je pense que mon expérience était vraiment formidable, qui m'a permis aussi d'aller aux Jeux de la Francophonie avec l'équipe canadienne. Donc, Patrice Bernier, Sandro Grande, Abraham François, Ali Gerba, on faisait toute partie du programme. Donc, on a eu la chance de...
Des pas pires joueurs, ça.
Ouais, des très bons joueurs, même.
Hey, donc, ton plus beau match, Arius. Tu sais, si je te demandais là, un match souvenir de ta carrière, ça serait quoi le plus beau moment de soccer?
J'oublierai jamais contre le Cameroun. Écoute, il y avait plus de 40 000 spectateurs. Et c'était vraiment impressionnant. Puis on a gagné ce match-là en plus pour aller en finale au Jeu de la Francophonie à Madagascar. Puis j'oublierai jamais ce moment-là. Puis je pense que je peux l'expliquer le match du début jusqu'à la fin. On a défendu pendant 120 du F.
Quand même.
Mais on a eu une seule occasion de la mettre dedans, puis on l'a mis dedans. Parce qu'on a joué jusqu'à... On a joué 120 minutes, on a joué 1,90 minutes plus la prolongation. Puis on a gagné en prolongation, puis sur un beau but d'un excellent attaquant dans ce temps-là, Vladimir Edouard, qui a eu la chance de jouer pour l'Impact de Montréal aussi. Et puis, c'était de toute beauté. Et puis, l'ambiance, l'émotion. Et après le match, on était comme si on était les
héros.
Ouais, les héros du pays.
Ben oui.
Ouais.
C'est merveilleux.
C'était formidable.
Excellent. Hey, Arius, pour les gens qui sont dans la région de Québec, avec le déconfinement et tout ça, tu as ton équipe qui évolue en PLFQ, Première Ligue de futsal du Québec.
Exact.
Qui joue ses matchs le lundi soir?
Oui, le lundi soir.
C'est toujours le lundi.
C'est toujours le lundi soir, le match. Donc, c'est à l'Académie Saint-Louis. C'est toujours le lundi soir. Donc, les matchs se jouent entre 7h et 21h. Donc, écoute, c'est notre deuxième
match.
C'est toujours trois matchs qui se jouent dans la soirée. Puis, les matchs sont sur Facebook Live. Et on a la possibilité de jouer notre deuxième saison. Malheureusement, la première saison, on n'a pas pu finir la première saison due à la pandémie. Mais Panthers Futsal Academy, c'est notre deuxième saison. Puis, effectivement, JF, il y a son garçon qui fait partie de l'équipe aussi. Donc, écoute, c'est un très beau niveau. Puis, on a Sporting Québec, Bilal, le capitaine, qui a représenté le Canada au dernier CONCACAF. Donc, on a des joueurs de haut niveau. Puis, je pense que Tu as constaté comment que le niveau était GF lors du dernier match.
Ben
Et
oui.
puis, non, vraiment. Et puis, c'est intéressant pour
J'ai
les
même
jeunes
vu,
joueurs.
Arius, j'ai même vu un coach lancer son calepin.
Ouais, les émotions, hein?
Non, mais
c'est la passion, ouais.
ben oui, c'est ça, c'est un jeu d'émotion.
Un
Mais
jeu d'émotion.
donc, c'est ça. Fait que si vous êtes dans la région de Québec lundi soir, je vous invite à aller voir ça à
Oui,
l'Académie
vous êtes les
Saint-Louis. Là,
bienvenus.
pour ceux qui connaissent plus ou moins, c'est près du Ménil, là, derrière les galeries de la capitale.
Ouais, sur la
Donc,
rive boisée.
exactement. Allez voir ça. Des très belles infrastructures, soit dit en passant, pour
Ah
ça.
oh, oui, de toute
Un
beauté.
très, très beau terrain. Donc, c'est vraiment bien. Puis, il y a des estrades. Tous les matchs sont filmés, comme Marius disait. C'est présenté sur Facebook Live, sur la page de PLFQ. Donc, on va être là lundi et on va encourager Arius.
Hey, merci. Bien, bonne soirée à tous. Puis c'était une excellente soirée. Puis je vous souhaite un bon retour au travail. Et puis bon, on lâche pas.
Excellent, merci Arius, bye bye.
Salut, bye bye.